chapitre 13. Je viens de passer un été infernal. Une chaleur étouffante et une atmosphère lourde de pollen, de monoxyde de carbone et de reproches. Mais enfin, J et moi sommes arrivés à un accord. Nous nous séparons, il va emménager avec Célia et nous allons vendre la maison. Il empochera les trois quarts de la vente et moi le reste. Mais il a accepté de m'avancer la somme, ce qui va me permettre de faire une offre pour Lille. Célia a participé aux négociations. Ça se comprend, c'est son argent après tout. Mon cœur se brise mais je le sens à peine, parce que le reste de mon corps vibre de bonheur. Je vais enfin être libre. Becker est en pleine lecture quand Elena pénètre dans le bureau. Il est tôt, le jour se lève tout juste, et dehors les flocons de neige qui tombent du ciel fondent dès qu'ils touchent le sol. Becker ne se retourne pas pour la regarder, préférant attendre de sentir ses mains se poser sur ses épaules et ses lèvres lui réchauffer le cou. « Bonjour, » murmure-t-elle. Son haleine est tiède et sucrée. Elena se perche sur le rebord du bureau, la ceinture de son peignoir rouge bordeaux à peine serrée sur son ventre rebondi, ses mains enveloppant une tasse de thé fumant. « Alors, comment est-elle, ta Vanessa ?»«
Elle est bizarre, » répond-il avec une grimace avant de lui lire le paragraphe qu'il vient de terminer. « Elle l'aime et pourtant elle est heureuse d'être enfin séparée de lui. Elle vibre de bonheur à l'idée de le quitter. Cette femme est une énigme. »«
Il n'y a rien de bizarre. » objecte Elena. Becker hausse un sourcil et elle éclate de rire avant de poser un pied sur sa cuisse pour qu'il lui fasse un massage. Il s'exécute.
« On peut aimer quelqu'un de tout son cœur et rêver d'en être débarrassé, » poursuit-elle. « Ce n'est pas incompatible. Certaines personnes sont difficiles à supporter au quotidien. »
Elle souffle sur son thé et reprend.
« Julian a été absolument infect avec elle, par exemple. C'est de notoriété publique. » Non seulement il lui a volé des tableaux pour les revendre, afin d'éponger des dettes, mais en plus il couchait à droite à gauche. Tu imagines l'humiliation de Vanessa quand la liaison de son mari avec Célia Gray a fait la une des tabloïdes? Elle a dû le détester.
C'est ça que je trouve bizarre, justement.
Elle ne le détestait pas. Au contraire, elle l'aimait. Et elle le dit ici, son cœur se brise. Le cœur, ça va, ça vient. On peut très bien s'en passer. Pas comme certaines choses.
Elle se mordit la lèvre et fait lentement remonter son pied le long de la cuisse de Becker. Celui-ci étouffe un petit rire et lui prend la main. Ces derniers temps, leurs relations sexuelles sont d'une intensité qui confine parfois à la brutalité. Pourtant, Becker tient à faire preuve de respect, non, de vénération, vis-à-vis de cette femme qui porte son enfant. Mais sur le moment, il se laisse toujours emporter par son excitation. Dès qu'il a joui, en revanche, la satisfaction laisse place à la culpabilité. Si cette dissolution des frontières entre leurs deux corps et leurs deux esprits reste une source de joie, cette joie est désormais entravée par quelque chose d'autre. Par quelqu'un d'autre. Leur étreinte terminée, Becker cherche par tous les moyens à éviter le regard d'Elena. Lorsque celle-ci s'en aperçoit, elle le repousse avec une telle force qu'il se cogne la tête contre le pied du bureau. « Qu'est-ce qui te prend ?» demande-t-il en se massant l'arrière du crâne, alors qu'il sait très bien ce qu'elle lui reproche.
« Ne me joue pas le complexe de la madone et de la putain, James », réplique sèchement Elena en refermant son peignoir. Elle accepte son aide pour se relever, mais se dégage aussitôt. « J'ai invité Sébastien à dîner »,
lance-t-elle d'un ton détaché, comme on jetterait un galet pour faire des ricochets.
« Je compte sur toi pour acheter une bonne bouteille, chez un caviste, pas au supermarché. »
Une camionnette de livraison est stationnée derrière la bâtisse principale. Ce qui signifie que la collection s'apprête à recevoir une nouvelle pièce. Comme Becker n'a pas été tenu au courant, il doit s'agir de quelque chose de très vieux ou de très récent. Quatre hommes, deux dans la camionnette et deux au sol, déchargent ce qui ressemble à un énorme tapis. Becker s'avance pour soutenir la partie centrale et tous les cinq emportent l'encombrant cylindre dans le grand hall, où attendent Sébastien et sa mère, tout sourire. Lorsque Lady Emmeline aperçoit Becker, son visage se plisse en une moue dédaigneuse. Elle lui jette un regard glacial.
« Préviens-moi quand il sera installé, »
dit-elle à son fils avant de s'éloigner en direction du salon, ses talons claquant sur le parquet.
« Salut, Emmeline !»
lui lance Becker d'un ton taquin.
« Tu pourrais lui témoigner un minimum de respect quand même, merde !»
soupire Sébastien en secouant la tête. « À quoi bon ?» rétorque Becker. « Peu importe la manière dont je m'adresse à elle, elle me verra toujours comme un péquenaud qui n'a pas sa place dans son monde. »
« Elle te voit surtout comme l'homme qui a fait capoter les fiançailles de son fils unique, »
maugré Sébastien à mi-voix avant de se tourner vers les livreurs.
« Il sera très bien dans la pièce bleue !»
annonce-t-il avec enthousiasme en agitant la main à la manière d'un guide touristique qui veut attirer l'attention de son groupe.
« C'est par là, suivez-moi !»
Dans son bureau, Becker fait défiler sans les lire les titres d'un site d'information. Il s'en veut. Pourquoi a-t-il tenu à faire enrager Lady Emmeline ? Il sait pourtant que cela ne sert à rien. Peu après son arrivée à Fairburn, il y avait eu une discussion au sujet de l'emplacement d'une sculpture absolument hideuse que Sébastien avait acquise. Becker ne se souvient plus des détails, mais il sait qu'il a laissé le débat évoluer en dispute. Il a haussé le ton, il s'est même montré vulgaire. Quelques minutes plus tard, alors que, un peu penaud, il fumait une cigarette assis sur les marches surplombant la pelouse, Elena s'est approchée. « Ça y est, » a-t-il songé, « voilà la petite bourgeoise avec son 12 de moyenne en histoire de l'art qui vient me faire la morale et m'expliquer les bonnes manières. » Sauf qu'elle n'en a rien fait. Elle lui a demandé de lui rouler une cigarette et, pendant qu'il s'exécutait, elle lui a donné un conseil.
« Ne les laisse pas t'atteindre, ne te laisse pas emporter, tu es beaucoup trop passionné. »
Il se rappelle avoir rougi à cet instant, s'être senti soudain à l'étroit dans son pantalon.
« Ces gens ont de la glace dans les veines, » avait-elle ajouté. « Ne leur montre pas ton jeu, garde tes cartes bien cachées. »
Il s'en veut de ne pas avoir suivi le conseil d'Elena ce matin, et il en veut aussi à Sébastien, qui n'a pourtant rien à se reprocher. Becker n'aime pas qu'on lui rappelle les torts qu'il a causés. Il est toujours en train de s'auto-flageller quand, une heure plus tard environ, Sébastien passe la tête par la porte de son bureau.
« Hey, Beck, tu veux jeter un œil à notre nouvelle acquisition ?»
Sans un mot, Becker suit Sébastien jusqu'à la salle bleue, ainsi nommée à cause de la couleur de ses rideaux. Au centre est désormais disposé un tapis d'Aubusson, dans les tons bleus et crème, qui n'est pas du tout du goût du conservateur.
« Très joli, »
commente-t-il diplomate.
« N'est-ce pas ?»
Becker hoche la tête, les lèvres pincées.
« Vraiment très joli, » répète-t-il. « Tu l'as trouvé où ? Tu ne m'avais pas dit que tu en cherchais un ?»« Mère l'a acheté à une vente aux enchères, »
explique Sébastien en s'accroupissant pour caresser la laine tissée du dos de la main.
« Sans me demander mon avis, »
s'empresse-t-il d'ajouter. Il se redresse. Les deux hommes se dévisagent et sourient, gênés.
« Je suis désolé pour tout à l'heure, »
lâche Sébastien. « Il n'y a pas de quoi, je me suis comporté comme un con. »«
Pas faux !»
s'esclave Sébastien en lui donnant une bourrade.
« Mais quand même ! Et puis ce n'est pas seulement à cause de Léna. »
Il repart vers le couloir et Becker lui emboîte le pas.
« Que mère ne t'apprécie pas, je veux dire, » précise l'héritier. « Il n'y a pas que cette histoire de mariage annulée. »
« Je sais bien. »
Et ce n'est pas non plus parce qu'elle te considère comme un péquenaud, même si sur ce point, elle n'a pas tort,
raille-t-il.
Non, c'est plus compliqué que ça. C'est à cause de mon père, de Vanessa, de ta présence qui lui rappelle en permanence l'existence de Vanessa et de tout ce qui s'est passé avec elle.
Mais enfin, ses œuvres auraient atterri ici, avec ou sans moi.
Évidemment, mais tu es en quelque sorte l'incarnation de tout ce qu'elle représentait de négatif pour ma mère.
Il hausse les épaules et ajoute
« En même temps, elle est de mauvaise humeur depuis qu'elle a vu le médecin la semaine dernière. »
« Rien de grave, j'espère, » demande Becker alors qu'ils atteignent la porte de son bureau, et il se rend compte avec honte que l'idée que Lady Emmeline soit souffrante le réjouit.
« Lady Emmeline nous enterrera tous, »
s'esclave Sébastien.
Le médecin lui a expliqué que si elle avait du mal à dormir et qu'elle se sentait aussi fébrile, c'est parce qu'elle souffre peut-être d'un trouble du stress post-traumatique. Rien que ça. Comme tu peux t'en douter, ce diagnostic ne l'a pas vraiment réjoui.
Dans le bureau, Sébastien va se poster à la fenêtre. La neige, qui continue à tomber à gros flocons, a commencé à tenir au sol.
En même temps, j'ai l'impression que de nos jours, c'est une véritable épidémie. Tu n'es pas d'accord ? Avant, pour un stress post-traumatique, il fallait avoir été victime d'une attaque terroriste ou d'un bombardement ennemi. Maintenant, il suffit d'avoir écrasé un chat.
Il adresse un petit sourire à Becker, lequel acquiesce et détourne le regard.
« Je sais ce que tu penses, elle n'a pas écrasé un chat. Elle a tiré sur son mari et l'a regardé se vider de son sein. Accidentellement, bien sûr, mais n'empêche. »
Becker ne cesse d'être ébahi par le flegme de Sébastien vis-à-vis de ce drame, et des nombreuses autres épreuves qu'il a traversées d'ailleurs.
« Sauf que ça, son médecin l'ignore, » reprend Sébastien. « Lui, il a eu la version officielle, comme la police, la presse et tout le monde. À la réflexion, je pense qu'on aurait dû lui dire la vérité. Il aurait su rester discret. »
Sébastien secoue la tête, le même sourire triste aux lèvres.
« Enfin, ce qui est fait, » conclut-il.
« Ce qui est fait, donc, c'est que M. Bryant, le garde-chasse qui est à peine moins âgé que la mère de Sébastien, et qui était au service de sa famille depuis son adolescence, a déclaré que le coup était parti de son fusil, afin d'épargner à Lady Emmeline le supplice d'une enquête de police et le battage médiatique qui n'aurait pas manqué de suivre. L'enquête, car il y en a bien une, a déterminé que Bryant était hors de cause et que le fautif était plutôt Douglas lui-même, qui avait eu l'imprudence de se placer dans la zone de tir. Quelques mois après le drame, Bryant a pris sa retraite, avec une pension bien plus conséquente qu'il n'aurait pu l'espérer, soupçonne Becker. « Je suis désolé, Seb, parfois j'ai tendance à oublier tout ce que tu as traversé. »
« Ah, il ne faut pas s'attendre à des miracles quand on laisse des octogénaires jouer avec des fusils de gros calibre, »
soupire Sébastien.
« Mais qu'est-ce que tu veux? Tu m'imagines essayer d'interdire quelque chose à Emmeline ?»
Becker décide d'orienter la conversation vers des sujets plus triviaux, à savoir la vente aux enchères d'Édimbourg, à laquelle Sébastien doit se rendre prochainement, et les visites du domaine qu'il compte mettre en place à partir du printemps, et pour lesquelles Sébastien a réussi à faire un peu de publicité.
« J'ai convaincu la journaliste du Sunday Times de nous faire lire son article avant publication, afin de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Je vais te l'envoyer, tu voudras bien y jeter un œil ?»«
Pas de problème, » dit Becker. « Qu'est-ce que tu en as pensé ?»«
Que le Pulitzer, ce n'est pas pour demain. »
Sombre splendeur à la Fondation Fairburn. À la découverte de la toute nouvelle collection Lennox. Par Maria Atwater. Ces dernières années ont été de véritables montagnes russes pour Sébastien Lennox. En 2017, moins d'un an après sa nomination en tant que directeur de la Fondation Fairburn créée par son père, Sir Douglas Lennox, l'institution a hérité contre toute attente de l'intégralité des œuvres de Vanessa Chapman. Malheureusement pour Sébastien, peine de cœur, drame et imprévu l'attendaient au tournant. À l'été 2019, son père décède dans un tragique accident de chasse sur le domaine familial. Quelques mois plus tard, sa fiancée le quitte. Enfin, l'arrivée du Covid en 2020 tue dans l'œuf son grand projet. Organiser une première exposition au manoir Fairburn, la résidence historique des Lennox dans la région des Scottish Borders. Ça n'a pas été simple, concède Sébastien, mais cette période a été compliquée pour tout le monde. Désormais, nous regardons vers l'avenir avec enthousiasme. Les pièces les plus intrigantes de la collection Lennox sont à n'en pas douter les nombreux Chapman qui, pour beaucoup, n'ont encore jamais été présentés au public. Parmi eux, on trouve de petits paysages maritimes d'une rare intensité, ainsi que des peintures de l'île d'Eris, sous tous les climats possibles et imaginables. L'espoir et violence, qui serait le dernier tableau achevé par l'artiste avant sa mort, nous offre ainsi une vue spectaculaire de l'île de la tête de mouton, telle que Chapman pouvait l'admirer depuis la fenêtre de sa chambre. L'exposition abritera également une série de 5 œuvres extraordinaires que l'artiste avait surnommées ses « peintures noires ». Il s'agit de grandes toiles croulant sous le poids d'une épaisse couche de peinture, dans les tons vert, bleu, noir et gris. Si 3 de ces tableaux sont résolument abstraits, 2 autres mettent en scène des silhouettes au sourire diabolique qui se livrent à des actes transgressifs. Ces 2 œuvres, qui s'apparentent à des contes de fées lugubres, sont à n'en pas douter les plus narratives de cette sélection. Disposées côte à côte dans le grand salon du manoir et bénéficiant d'un éclairage subtil, ces peintures noires sont aussi étranges que captivantes. Elles dégagent quelque chose de sinistre et de cauchemardesque. Mais nous ne savons pas vraiment de quoi elles traitent, avoue Sébastien Lennox. Pour l'heure, nous ne pouvons que formuler des hypothèses. Est-ce que ces silhouettes représentent Julian Chapman, le défunt mari de Vanessa? Ou s'agit-il d'une incarnation du cancer qu'il a emporté? Nous devrions avoir bientôt accès à l'intégralité des documents personnels de Chapman et nous avons bon espoir d'en apprendre plus sur les origines de ses œuvres extraordinaires et sur ce qu'elles représentent. D'autres pièces plus inattendues s'invitent à la Fondation. parmi lesquels trois sculptures de Chapman, Échouage, Division 1 et Division 2, que le grand public a pu admirer récemment au Musée d'Art Moderne de Paris à l'occasion de la très remarquable exposition 21. Ces sculptures sont d'autant plus fascinantes qu'elles semblent faire référence à une période plus ancienne dans la carrière de Chapman. Nous confie James Becker, le directeur artistique de la Fondation Fairburn et éminent spécialiste de Chapman, qui a fait la connaissance de Sebastian Lennox sur les bancs de l'université. Avant d'être reconnue pour ses peintures expressionnistes, Vanessa Chapman aimait s'adonner à l'assemblage d'objets qu'elle ramassait près de chez elle, dans l'Oxfordshire. Comme ses premières tentatives ne s'étaient pas franchement attirées les faveurs des critiques, qui les qualifiaient d'art populaire sans grand intérêt, on pensait que Chapman, dépité, avait tourné le dos à cette pratique. Mais la découverte de ses sculptures prouve que nous avions tort et que sa passion pour les objets trouvés était demeurée intacte. Ici, elle s'en sert en complément de divers matériaux pour façonner des œuvres uniques et d'une rare puissance. Vous pouvez d'ores et déjà admirer plusieurs créations de Chapman à la Tate Moderne de Londres, dans le cadre de l'exposition Nature et Sculpture, qui se tiendra jusqu'à fin novembre 2021. Le manoir Fairburn ouvrira, lui, ses portes au public à partir de début 2022.